Aux petits soins de nos clients dans plus de 14 pays d'Afrique, Suno Assurance vous fait profiter d'une assurance santé toute option, où que vous soyez. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Priorité Santé vous retrouve donc aujourd'hui à Strasbourg, dans l'Est de la France, où se tient jusqu'à demain le 14e congrès international consacré à la drépanocytose. La drépanocytose, vous le savez, nous en parlons régulièrement sur cette antenne. Cette maladie du sang peut provoquer de multiples complications. Une fois dépistée, la drépanocytose, qui est aussi désignée par le terme d'anémie falciforme, par exemple en Haïti, implique donc une prise en charge multiple. Gérer la douleur, de possibles infections, des risques de détresse respiratoire, d'accidents vasculaires, de troubles osseux ou encore l'anémie. 50 millions de patients, 250 millions de porteurs du gène ou très drépanocytaires. Cette pathologie a encore aujourd'hui un impact majeur en termes d'espérance de vie et prive d'avenir des dizaines de milliers d'enfants. Diagnostic, sensibilisation, information, prise en charge, éducation thérapeutique, autant de sujets que nous allons aborder aujourd'hui avec nos invités. Nous parlerons aussi bien sûr de l'accès aux soins, lié comme toujours à des critères régionaux et financiers. Il sera question de recherche pour développer de nouveaux traitements, beaucoup d'espoir de ce côté-là, informer, davantage mobiliser pour trouver de nouveaux moyens susceptibles de faire reculer la maladie génétique la plus fréquente au monde. Quatre invités, quatre spécialistes de la drépanocytose pour répondre à nos questions. Professeur Frédéric Galactéros, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de l'unité fonctionnelle maladie génétique du globule rouge à l'hôpital Henri Mondor à Créteil, en région parisienne. Docteur Gilna Loco, bonjour madame.
Bonjour.
Vous êtes responsable du centre de référence de Martinique et présidente de l'association ASAD 972, association de soutien aux actions contre la drépanocytose de Martinique. Professeur Léon Chilolo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pédiatre hématologue, directeur du centre de formation et de recherche du centre hospitalier mère-enfant Moncolet de Kinshasa. Professeur Chilolo, vous présidez le réseau d'études de la drépanocytose en Afrique centrale. Et avec nous également, Constant Vaudoué, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de l'association de lutte contre la drépanocytose Doris, qui organise ce congrès ici à Strasbourg.
Priorité santé sur RFI.
Alors, je le disais tout à l'heure, la drépanocytose, dont on parle régulièrement, bien sûr, dans Priorité santé, maladie familière pour certains, en tout cas maladie complexe. Il faut le dire, professeur Frédéric Galactéros, en France, beaucoup de gens ignorent encore ce qu'est la drépanocytose.
Oui, c'est vrai, c'est paradoxal, parce que je crois que tout le monde connaît la mucoviscidose ou les hémophilies, qui sont des maladies qui sont comparables en termes de transmission et de sévérité, alors qu'elles sont nettement moins fréquentes.
Concerne quelques milliers de personnes, alors que là, c'est beaucoup plus important.
Oui,
si on sort des frontières, là, c'est carrément...
Bien sûr, oui. Pour toute l'Europe, on est probablement à proche de 60 000, et dont peut-être 30 000, 25 000, 30 000 en France, peut-être autant en Grande-Bretagne. Donc, c'est pas des maladies rares au sens absolu du terme, dans certaines régions, puisque l'Île-de-France concentre une grande partie des patients, et la région de Grand Londres également, la région du Grand Bruxelles aussi. Donc, c'est une répartition qui est liée au fait que ce sont des populations essentiellement migrantes et qui se sont installées proches de l'endroit où il y avait du travail d'un côté, et de leur famille, et puis les grands aéroports, etc.
Est-ce que c'est important, justement, cette dimension de familiarité, de connaissance étendue pour la dynamique de sensibilisation ?
C'est essentiel. Une politique de santé qui passerait sous silence le besoin d'informer et d'éduquer à propos d'une maladie comme la drépanocytose raterait complètement son objectif.
Alors, Constant Vaudoué, une association comme la vôtre contribue justement à faire connaître la maladie. À quoi sert précisément une association comme Doris ?
On en parlait tout à l'heure de la prévention, de la méconnaissance de la maladie.
Donc c'est déjà un but pour l'association de faire connaître la maladie et aussi ça nous permet de sensibiliser et d'informer les populations qui sont concernées.
Docteur Gilles Naloco, on parlait de l'Alsace, là tout autre cadre pour cette région Caraïbe. La drépanocytose est connue là-bas du grand public ?
La drépanocytose, elle est connue en Martinique, elle est en même temps méconnue. Alors le mot drépanocytose est de plus en plus connu, grâce aux campagnes de sensibilisation, peu de personnes peuvent dire aujourd'hui drépanocytose, qu'est-ce que c'est ? Quant à savoir de quoi il s'agit exactement, c'est autre chose.
Professeur Frédéric Galactéros, quand on parle de la drépanocytose, quand on parle de l'impact en matière de santé, on parle de symptômes ou on parle déjà de complications ?
Les deux.
Les deux ?
Les deux, oui, parce que quelque chose qui pourrait sembler ne pas être une complication et un symptôme comme une crise douloureuse qui en général est de telle ampleur que toutes les ressources à domicile pour l'enfant ou pour l'adulte ont été épuisées, il se présente aux urgences dans un état très critique du point de vue du symptôme. Mais cependant, derrière ce symptôme qui demande des soins immédiats et très puissants en termes d'antidouleur, il se cache potentiellement des complications. Et peut-être que la répétition de ces épisodes critiques non seulement se manifeste par des symptômes, mais aussi par une usure progressive du système vasculaire, des vaisseaux, puisque la douleur, je le rappelle, dans la drépanocytose, est liée à l'obstruction de petits vaisseaux qui privent d'oxygène toute une partie en aval de cette obstruction et qui déclenche des douleurs extrêmes, un peu comme dans l'infarctus du cœur, quand ça se bouche dans le cœur, ça fait extraordinairement mal, il faut donner de la morphine, sinon on peut pas supporter ce genre de choses. Quand vous avez une atteinte pulmonaire, par exemple, qui en découle, soit dans l'immédiat en aigu, soit au long terme à cause de la répétition de ces accidents, vous débouchez sur une deuxième maladie, qui va être une insuffisance respiratoire, une insuffisance cardiaque, etc.
Pour éviter d'en arriver là, professeur Léon Chilolo, si on part du commencement, il a un nom, ce commencement, c'est bien sûr le dépistage. Alors déjà, à quel âge ce dépistage ?
Le dépistage, il faut le faire le plus tôt que possible, déjà à la maternité, au moment de la naissance de l'enfant. C'est ce que préconise l'OMS, entre autres, pour les pays de la région Afrique, mais également dans la tranche de 0-5 ans, parce que tout le monde n'a pas la possibilité de naître dans une maternité. Il faut pouvoir récupérer ses enfants avant que les symptômes ne soient majeurs et qu'ils soient accompagnés de complications lors des séances de vaccination. C'est un moment idéal pour récupérer les enfants qui n'ont pas été dépistés au niveau des maternités.
Alors bien évidemment, quand on parle de drépanocytose, on parle d'hérédité. Il peut y avoir aucun des deux parents qui n'ait de signes déclarés de la maladie et pourtant, un ou plusieurs enfants d'une fratrie, eux, peuvent être directement concernés.
Eh bien là, c'est là que se pose le problème de la méconnaissance de la drépanocytose dans les pays africains parce que on ne comprend pas pourquoi dans certaines familles, il y a un certain nombre d'enfants qui vont naître avec cette maladie et qui fait que dans les pays africains, elle est considérée souvent comme une malédiction, comme un mauvais sort qui a touché certaines familles. Le sens de la transmission n'est pas très bien connu et c'est là qu'il faut jouer un grand rôle dans l'éducation, dans la sensibilisation pour expliquer que c'est une maladie qui est à la fois transmise par le papa et par la maman. Il faut surtout insister que le papa aussi y contribue.
Parce qu'aujourd'hui, il y a une sorte de désignation, la mère est ciblée comme responsable de la transmission.
Oui, malheureusement, généralement, c'est la mère qui est ciblée comme responsable. C'est d'ailleurs elle qui va rester souvent seule avec son enfant et qui va amener tout le temps l'enfant à l'hôpital lorsqu'il fait des crises, etc. Donc c'est vraiment un poids qui pèse surtout sur la maman.
Docteur Gilles Naloco, comment ça se passe, le dépistage en Martinique ? Est-ce que c'est quelque chose qui est proposé de façon systématique ?
Je dois avouer que la Martinique et les Antilles et la Guyane ont cette chance d'avoir, pour les populations en tout cas, un dépistage systématique à la naissance, et ce, depuis 84-85. Et nous avons, depuis le centre de référence, depuis la labellisation, quelques années après, nous avons aussi eu la chance d'avoir une labellisation du laboratoire qui permet que la mère et bébé, enfin la famille, soient informés lorsque l'enfant est malade avant la sortie de l'hôpital. En général, la mère et bébé sortent au troisième jour et les parents ont l'information avant le retour à domicile. Et ils sont informés, c'est très important, que 2 mois plus tard, ils auront un rendez-vous avec l'équipe spécialiste spécifique qui va éduquer, accompagner la famille pour la drépanocytose de l'enfant.
Alors à ce moment-là, il y aura de premières mesures, des premiers soins, des premiers médicaments. Professeur Frédéric Galactéros, est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, si on revient cette fois-ci en territoire métropolitain, le dépistage est suffisant ou c'est encore quelque chose qui est trop restrictif?
Il y a deux insuffisances majeures et quasiment inacceptables en 2019. D'une part, le dépistage est ciblé. Et il ne faut pas se faire d'illusions, il est ciblé à la tête du client, au patronyme et ce genre de choses. Parce que il est d'ailleurs bien ciblé de ce point de vue-là. Mais ça ne veut pas dire que ça suffise pour repérer tous les enfants atteints. Or, en France, on repère entre 400 et 450 nouveau-nés atteints par an. Et on sait qu'on en rate, entre guillemets, du fait de ce ciblage, 10 ou 20. Et on a des preuves qu'on retrouve chez ces enfants non dépistés une mortalité accrue qui disparaît chez ceux qui sont normalement dépistés. Donc il y a une lacune qui devient de plus en plus criante et inacceptable.
Excusez-moi, je vais vous couper. C'est toujours difficile de manier ce genre de concept. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne dépiste pas les métis très clairs?
Par exemple, oui, ou ceux qui ne savent pas eux-mêmes qu'ils ont des origines plus ou moins lointaines, méditerranéennes, parce qu'on peut être d'Italie, je veux dire, au sens habituel du terme, et porteur. On peut être portugais du Sud et porteur. On peut être
le bassin méditerranéen, en général, grec, est concerné
etc.,
aussi.
Etc., etc. On est là pour essayer de dépister à temps un enfant qui risque sa vie s'il n'est pas pris en charge correctement. Et ce n'est pas une façon de parler. Alors que si on le prend en charge correctement, la mortalité disparaît entre 0 et 20 ans.
Et ce que vous avez constaté sur le terrain, docteur Gilles Naloco, c'est l'avancée en âge des patients drépanocytaires que vous traitez, vous. Vous commencez vraiment à avoir des personnes âgées en grand nombre qui sont prises en charge. Donc là, vous allez avoir une dynamique différente, c'est-à-dire non seulement traiter la drépanocytose au long cours, mais aussi un certain nombre de pathologies associées au vieillissement.
Et c'est vrai que toutes les équipes qui s'occupent de drépanocytaires aujourd'hui notent un vieillissement, si je puis dire, de la population. Certaines équipes n'avaient que de jeunes enfants et ont de plus en plus des adultes jeunes. Comme disait Monsieur Galactéros tout à l'heure, la mortalité disparaît jusqu'à 20 ans. Et Monsieur Chilolo le disait tout à l'heure en intervenant qu'ils ont de plus en plus d'adultes dans son équipe. Nous, en Martinique, dans le centre où je travaille, où je m'occupe exclusivement d'adultes, donc de sujets âgés de 18 ans et plus. Nous suivons à peu près 850 patients et nous avons plus de 130 d'entre eux qui ont 60 ans et plus. Et les complications qui pouvaient être plus ou moins rares sont de plus en plus nombreuses. Et effectivement, aujourd'hui, le challenge, c'est la qualité du suivi et de la prise en charge est meilleure, la qualité de vie des patients s'accroît, ils vieillissent et l'enjeu aujourd'hui est de bien suivre les entre guillemets, vieux et drépanocytaires, parce que c'est un phénomène nouveau qui va aller en s'accroissant et il nous faut nous adapter et changer. Je crois que notre prise en charge doit s'adapter aussi à l'âge de la population.
Alors tout à l'heure, professeur Chilolo, brièvement, vous nous avez parlé d'une forme de stigmatisation des patients drépanocytaires. Est-ce qu'il y a justement dans votre pratique clinique des travaux, des actions pour justement limiter ces tendances à la discrimination et faire un peu mieux connaître la maladie? Est-ce que ça fait aussi partie de l'éducation thérapeutique?
Oui, ça fait partie des priorités et des enjeux qu'il faut développer, surtout dans les pays en développement. Comme je le disais, où cette maladie est un peu maladie tabou, on n'en parle pas nécessairement. Et ce qu'il faut faire, c'est casser ce mur, en fait. C'est ce que nous avons fait en République démocratique du Congo par des programmes de sensibilisation. Tout azimut, je dirais, on a fait des sensibilisations au niveau des communautés, au niveau des églises, au marché, à la radio, à la télévision, et surtout ce qu'on a pu faire, c'est d'impliquer les familles qui ont des enfants drépanocytaires ou les malades eux-mêmes. Il n'y a pas meilleur artisan du plaidoyer que celui qui vit la drépanocytose dans son sang et au quotidien, comme sont les drépanocytaires et leurs familles.
Alors, professeur Chilolo, vous êtes pédiatre. Hein. Un point sur, tout à l'heure, j'ai dit, beaucoup d'enfants ont leur avenir hypothéqué par la maladie. Est-ce que c'est vrai encore aujourd'hui pour les enfants qui ne sont pas dépistés? On peut avoir en consultation de pédiatrie un enfant qui meurt et on découvre qu'il était drépanocytaire après coup.
Oui, malheureusement, c'est encore vrai pour la majorité des pays africains. C'est une réalité parce que le dépistage n'est pas systématique. Dans la majorité des pays africains, ce sont des travaux pilotes qui sont faits essentiellement dans des centres urbains. Et donc, un enfant dans un milieu rural, il va mourir de sa drépanocytose sans que l'on sache que réellement il était drépanocytaire, parce qu'il va mourir d'une infection ou d'une autre complication sans que le diagnostic de la drépanocytose ne soit posé.
Avec une particularité de cette maladie, c'est la douleur, c'est vraiment quelque chose de spécifique, de caractéristique. Est-ce qu'il n'y a pas une approche spéciale pour prendre en charge la douleur, justement, chez les tout-petits? Donner des antidouleurs à un enfant, c'est une démarche qui est particulière. Est-ce qu'il y a encore des freins à cet égard de la part du corps médical, ou c'est quelque chose qui est bien en train de passer? Professeur Chilolo.
Eh bien, en Afrique, oui, la douleur, on va utiliser des produits, des antalgiques mineurs.
Paracétamol,
accessible,
par exemple.
Le paracétamol ou encore le paracétamol combiné à la codéine. Mais là, on n'a pas accès, c'est la morphine. La morphine, elle est pratiquement inexistante dans les pays africains, tout simplement parce qu'on a difficile à avoir la morphine, mais également il y a une certaine réticence de la part du personnel de santé qui n'est pas habitué et qui n'est pas formé et qui en a peur.
Professeur Frédéric Galactéros, on voit justement l'ampleur de la tâche en termes de traitement. C'est une prise en charge absolument globale, c'est absolument énorme comme ambition thérapeutique.
Oui, c'est un investissement individuel au niveau du corps soignant qui est complet. On ne peut pas s'investir du rôle thérapeutique dans la drépanocytose à moitié, sur un coin de table, c'est pas possible. Ça demande effectivement du savoir-faire. Nous, on a mis en place en métropole, avec d'ailleurs un des intervenants qui est là aujourd'hui, le professeur Mehdi Kelaf, un cycle de formation de l'ensemble des sites d'urgence de France. Il y a déjà une trentaine qui ont été formés et on continue. Bien sûr, c'est très insuffisant par rapport à ce qu'il y a. Et on se retrouve confronté avec les problèmes généraux des urgences en France, c'est-à-dire qu'il est de plus en plus difficile, avec le maigre allocation de personnel qu'ils ont et dans les conditions où ils travaillent, de prendre en charge les patients en temps voulu. Donc on a actuellement une régression de la prise en charge des drépanocytaires en France, alors que les choses fonctionnaient particulièrement bien il y a encore quelques années.
Et on revient à la question du départ, sur le côté, est-ce que les gens sont familiarisés avec la maladie? On entend parfois des témoignages de patients qui sont en souffrance, qui arrivent aux urgences. Et en face, eh bien, on va dire simplement, il n'y a pas de réponse, parce que les gens ne sont pas forcément formés à ces crises très spécifiques.
Oui, bien entendu. Il y a un degré de formation à avoir, et d'autre part, une disponibilité en termes de personnel. Quand vous avez 15 patients à l'heure à voir aux urgences pour un seul médecin, comment voulez-vous faire?
Alors, on comprend bien qu'il y a des spécificités régionales, des préoccupations particulières. Il y a quelque chose qui concerne directement un territoire comme la Martinique, comme le vôtre, docteur Gilles Naloko. C'est éventuellement des déplacements de population lors des études. Il peut y avoir des jeunes qui partent de la Caraïbe. Comment ça se passe pour ces populations qui sont appelées dans leur vie à bouger pour le suivi du traitement?
Si vous permettez, je voudrais parler aussi pour ce qui est de la douleur, de toutes ces alternatives non médicamenteuses au sein de certaines équipes nombreuses dans l'Hexagone, comme en Outre-mer, comme l'hypnothérapie, la sophrologie,
les soins de support qui viennent, pour d'autres pathologies, voilà, épauler la médecine dure.
Oui, je pense que les patients sont en attente de cela. Nous avons à nous former, parce que même si ce n'est pas de la médecine dure, il faut être formé, et tout le monde, n'importe qui ne peut pas prétendre de faire de la médecine non médicamenteuse, en tout cas pour soulager la douleur des patients. Pour ce qui est du déplacement des populations en Martinique, c'est un problème global. Nous avons encore à faire des efforts sur la communication à la nouvelle structure des différents éléments du dossier médical, du résumé médical qui permettrait de prendre en charge rapidement, parce que ces étudiants, le point négatif, c'est quand ils se déplacent, en général ils négligent leur santé.
Quand on entend les différents témoignages autour de cette table, on comprend bien les fossés au niveau de l'accès aux soins. Professeur Léon Chilolo, comment on fait quand on vit dans une province reculée pour être soigné?
Eh bien, maintenant, ce que nous avons commencé à introduire, c'est d'instituer le paquet minimum d'activités au niveau du centre de santé, donc le premier échelon de la santé, où il n'y a qu'une infirmière, une infirmière qui doit apprendre à identifier d'abord les signes de la drépanocytose et à pouvoir administrer les soins élémentaires, les plus simples, que M. Galacteros avait évoqué, donner l'acide folique, donner une pénicillino-prophylaxie, donner les antalgiques en cas de douleur, mais surtout aussi savoir référer à un centre de référence. Il est vrai qu'en milieu rural, elle n'aura pas de choix de référer dans un centre de référence parce qu'il est souvent distant. C'est dans le milieu urbain. Et donc là, le drépanocytaire ne sera pas suffisamment bien suivi.
Et sur les comorbidités, présence conjointe à la fois d'une crise drépanocytaire et de paludisme. Comment est-ce qu'on gère ce genre de situation particulièrement difficile ?
Oui, elles sont réellement difficiles parce que il faut gérer les deux pathologies qui sont associées. Pour la lutte contre le paludisme, il y a une politique nationale qui vise à assurer une certaine prévention, à faire dormir l'enfant sous des moustiquaires imprégnés pour éviter le risque d'être piqué par des moustiques. Mais également, on a introduit des molécules pour soigner la malaria et en les prenant par la voie digestive. Il ne faut pas nécessairement avoir des perfusions. Ce sont des molécules combinées qui sont efficace pour soigner la malaria, mais il faut aussi en même temps soigner la drépanocytose. Et un des gros défis lorsqu'on fait la malaria et qu'on est drépanocytaire, c'est l'anémie aiguë. À ce moment-là, il faut transfuser. Et là se pose toute la problématique de l'accessibilité à la transfusion sécurisée.
Et c'est une question à laquelle on va revenir en deuxième partie. Madame, messieurs, vous restez avec nous, on va se retrouver dans quelques instants.
Priorité santé sur RFI.
Et nous sommes donc à Strasbourg à l'occasion du congrès international consacré à la drépanocytose. Dépistage, croyances, population concernée, prévention. Constant Vaudouet, à quoi sert justement ce type de congrès comme celui qui se tient en ce moment à Strasbourg? On a entendu avec les différents invités présents autour de cette table qu'il y a des considérations régionales, mais il y a un trait commun sur cette fameuse maladie qui est plurielle, qui est multiple. Faire rencontrer les acteurs de la drépanocytose, ça apporte quoi concrètement?
C'est déjà, si on a compté, ici on est à peu près à 33 nationalités différentes. Donc rassembler autant de nationalités autour d'une même cause, ça permet déjà des discussions. On veut savoir ce qui se passe en RDC, on veut savoir ce qui se passe en Martinique, comment ça se passe en France. En essayant de travailler sur les différents sujets, dans les discussions, il y a des points positifs qui peuvent en ressortir et ça permet surtout aussi à nos collègues qui viennent des pays du Sud de confronter aussi leur manière de faire, leurs résultats par rapport à ce qui se passe au Nord.
Alors professeur Galacteros, il y a quand même des traits communs. Vous avez parlé justement tout à l'heure de cette médecine de prévention pour les plus jeunes une fois que la maladie est dépistée, le fameux calendrier vaccinal et puis aussi tout ce qui concerne l'hygiène de vie. Là, il va falloir aussi mettre en place un accompagnement au long cours.
Bien sûr, les premiers interlocuteurs, c'est les parents, mais pas seulement. Le monde éducatif, la crèche, arrive très vite en première position parce qu'ils ont en charge les enfants pendant de assez longues périodes horaires dans la journée. Bien sûr, ça peut être au-delà des parents, les nounous, les grands-parents, etc. Et donc, il faut négliger personne, il faut faire une espèce d'enquête contact autour de l'enfant pour savoir qui doit être informé et formé. Et quels réflexes il faut avoir. Il faut avoir que toutes les choses soient prévues de telle sorte qu'il n'y ait pas d'agissement retardataire qui ferait perdre des chances à l'enfant. Parce que les urgences en matière de drépanocytose, c'est parfois des extrêmes urgences. Alors, ça n'apparaît pas tant qu'on réagit dans les temps. Mais il suffirait d'avoir un petit écart à la moyenne et d'avoir un retard indu pour s'apercevoir que c'était une extrême urgence et en mesurer les conséquences.
Est-ce qu'on peut s'appuyer sur des supports pour diffuser cette information aux parents et on l'a compris à l'entourage?
Ah oui, ça s'appelle l'éducation pour la santé. Alors que nous avons ici d'éminents représentants de l'éducation pour la santé, et en particulier le docteur Mensah qui s'occupe de Rosfed à Necker, qui est une très grande spécialiste de cette question et qui ont développé toute une série d'outils qui permettent à tout un chacun de se former vis-à-vis de cet objectif. Et pour les adultes, il existe la même chose, qui s'appelle EVAD, et vivre avec la drépanocytose, et qui elle-même, positionnant les choses de façon un peu différente. Alors, il faut savoir, par exemple, des choses extrêmement simples, mais très opérantes. Il faut éviter toute déshydratation chez un drépanocytaire. Rien n'est plus simple. L'eau, H2O.
Boire régulièrement, ouais, en quantité.
C'est le premier médicament.
Est-ce qu'on peut expliquer sur le plan physiologique pourquoi c'est si important de boire de l'eau quand on est drépanocytaire?
Eh bien, pour deux raisons essentielles. La première, c'est que l'économie de l'eau dans le corps du drépanocytaire n'est pas normale. C'est des casseroles percées, si je peux me permettre cette comparaison. Et donc, il faut la remplir en permanence, parce que sinon, elle se vide. Le patient drépanocytaire est une personne qui se déshydrate plus vite que la moyenne. La deuxième chose, c'est que les globules rouges ont une certaine concentration en hémoglobine, et l'hémoglobine S, elle est pathologique parce qu'elle a tendance à s'auto-agréger et former des sortes de grumeaux, comme la farine dans la sauce. Et ces grumeaux modifient complètement l'architecture du globule rouge et en particulier ses propriétés de circulatoire. Ça devient un très mauvais agent de circulation et de transport de l'oxygène à partir du moment où il y a ces hémoglobines qui s'agrègent comme ça à l'intérieur. Et ça, c'est lié à l'oxygène d'un côté, mais surtout à l'eau. Alors le globule rouge, c'est un petit globule, c'est très petit, mais il est capable de gonfler ou de rétrécir en fonction de l'environnement où il est. S'il est dans un environnement où il y a plein d'eau, il va gonfler, son hémoglobine va se dissoudre davantage, et il va donc avoir moins de problèmes de circulation. Alors sens inverse, quand elle se déshydrate, eh bien l'hémoglobine se resserre les unes contre les autres, ont tendance à agréger davantage et provoquer davantage de vasoobstruction et de crise.
Et ça va faire mal tout simplement.
Voilà, c'est les vasoobstructions, c'est-à-dire c'est les vaisseaux qui se bouchent.
Alors, on a vu justement ces mesures de prévention. Il y a un certain nombre de médicaments disponibles. Professeur Léon Cilolo, demain, dans le cadre de cette conférence de Strasbourg, on va vous entendre proposer un exposé sur l'hydroxyurée. De quoi s'agit-il? Dans quel cas ce produit est-il indiqué?
L'hydroxyurée, c'est la molécule qui permet d'atténuer les souffrances de la drépanocytose, donc les crises vaso-occlusives, mais également aussi de réduire le risque de développer des complications. Cette molécule, elle a existé pour traiter d'autres maladies il y a une trentaine d'années, qu'on a découvert qu'elle pouvait être utilisée chez les sujets drépanocytaires. D'ailleurs, les premiers travaux ont été faits surtout en France et en Belgique, et qui ont démontré l'intérêt d'utiliser cette molécule chez les sujets drépanocytaires.
Et vous, professeur Cilolo, vous êtes en train de mener une grande étude sur plusieurs États africains, Afrique centrale, Afrique de l'Est, avec là aussi des résultats assez probants.
Oui, notre travail a porté surtout sur une population dans un contexte différent de la France et de la Belgique, un contexte où il y a la pauvreté, la malnutrition et surtout où il y a aussi des infections dont la malaria. Donc c'était la première fois qu'on a mené ce travail dans 4 pays, l'Angola, le Kenya, l'Ouganda et la République démocratique du Congo, et on a utilisé cette molécule chez les enfants âgés de 0, de 1 an à 10 ans. Et c'est la première fois. Nos résultats ont montré justement que nous pouvons utiliser cette molécule dans un contexte africain, qui est marqué par ce que je venais de dire. Et en plus, le résultat étonnant et la grande nouveauté, c'est que on a observé une réduction des complications infectieuses. Et il nous semble actuellement qu'il faudrait vraiment favoriser l'utilisation de cette molécule dans les pays africains.
Il faudrait favoriser pour ça, il faudrait, on est au conditionnel, il faudrait y avoir accès.
Il faudrait y avoir accès et donc il faudrait bien trouver des moyens financiers pour permettre à ce que cette molécule puisse être accessible à la population, des populations africaines qui en souffrent. Et là, je rappelle que la grosse partie des drépanocytaires dans le monde vit en Afrique subsaharienne.
Parce qu'il y a des programmes de financement d'accès à des traitements spécifiques. On pense bien sûr au Fonds mondial, aux frais qui sont justement pris en charge pour un certain nombre de maladies infectieuses. Mais jusqu'à présent, en matière de drépanocytose, il n'y a pas de programme de financement internationaux à grande échelle.
Non, malheureusement, il n'y a pas ce genre de programme, mais il y a quelques actions qui sont menées par des fondations ou par des associations bénévoles qui veulent bien justement aider ces populations.
Alors, on a parlé de ce médicament. D'ailleurs, j'aimerais que vous me disiez un mot sur l'un des effets secondaires de ce traitement, en particulier pour les petits garçons, parce que c'est quelque chose qui n'est pas à négliger. Certains parents peuvent avoir des réticences à faire traiter leur enfant en raison de cet effet secondaire, professeur Chilolo.
Effectivement, ce que les parents demandent toujours, c'est de savoir si la prise de ce médicament chez les garçons sera responsable d'une stérilité. Et c'est un gros problème. Ça se pose aussi chez les patients adultes qui prennent ce médicament. Mais l'expérience, justement, des pays européens montre que c'est vrai qu'il y a une réduction de la production de la quantité de spermatozoïdes. Donc, il y a une oligospermie, mais elle est transitoire. Et on a démontré que lorsque la personne a arrêté de prendre ce médicament, cette perte de fertilité transitoire était tout à fait résolue et qu'il y a des personnes qui prennent ce médicament et qui sont devenues papa.
Alors, prise en charge des patients, on a abordé tout à l'heure rapidement la question de la transfusion, des saignées, professeur Frédéric Galactéros. Ce qui est essentiel, bien sûr, quand on pense à ces transfusions, c'est la sécurité transfusionnelle, mais aussi simplement l'accès aux produits sanguins. Et là encore, on parle d'accès aux soins, d'inégalité. Là, les inégalités sont absolument criantes.
Oui, elles le sont peut-être un peu moins qu'elles l'ont été. Je me tourne vers Léon Chilolo pour voir s'il approuve. La situation vis-à-vis de la sécurité transfusionnelle en pays africain a été beaucoup plus dramatique qu'elle ne l'est.
Je parlerai plus de d'accès dans certains territoires où il n'y a pas forcément de disponibilité ou de banque de sang qui soit vraiment efficace.
C'est tout à fait vrai qu'il y a encore des systèmes de dons qui sont extrêmement dirigés ou dirigistes, et qui ne sont pas des dons anonymes, parfaitement anonymes et gratuits, comme ça se fait en France, par exemple. La transfusion, elle pose, de toute façon, elle continue à poser des problèmes considérables, et notre politique globale, actuellement, c'est de réduire la transfusion au strict nécessaire. Pourquoi ? Parce que la propension des drépanocytaires à s'immuniser contre les globules rouges de donneurs est malheureusement grande.
Alors, pour faire grand public, c'est que plus on reçoit de sang, plus notre corps résiste et rejette ce nouvel apport de sang, en gros,
voilà,
hein, de façon très schématique.
C'est ça, on produit des anticorps qui vont s'attaquer aux globules rouges transfusés et par conséquent, non seulement en réduire l'efficacité, mais même produire des complications aiguës d'une extrême gravité, parfois. Et donc, ce sont des impasses transfusionnelles qui font que, même si on a toute une recherche actuellement pour essayer d'outrepasser cet obstacle, qui fonctionne en particulier, mais ça reste des procédures tout à fait récentes dans leur introduction et également très chères et encore moins accessibles.
Le problème, c'est que le sang n'est pas compatible ou c'est une nature de l'organisme qui, en général, va rejeter ce sang?
C'est-à-dire qu'il faut, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les groupes sanguins, il y en a à peu près une trentaine. Ils sont représentés dans tous nos globules rouges. Et on a l'habitude de considérer les groupes rhésus, le rhésus et le groupe ABO. Donc on va dire je suis O+, je suis A+, etc. Et ça ne suffit pas du tout à caractériser le groupe sanguin réel.
C'est beaucoup plus compliqué que ça.
Voilà. Et par conséquent, les groupes sanguins dont on ne parle pas, mais qui sont présents, peuvent provoquer la fabrication d'anticorps. Et quand les anticorps du patient sont mis en contact avec les globules rouges d'un donneur ultérieur, eh bien, il peut y avoir une réaction de brutale destruction des globules rouges. Et donc, cette destruction brutale des globules rouges, on appelle une hémolyse aiguë, est très grave comme complication et peut aboutir au décès. Donc, on est par conséquent extrêmement prudent. Et en Île-de-France, on a mis en place un dossier informatique qui reprend toutes les données patients connues depuis 20 ans, de telle sorte qu'à chaque fois qu'un drépanocytaire peut être transfusé loin de chez lui, mais toujours dans la région, le médecin puisse avoir accès 24 heures sur 24 aux informations pour éviter un accident de transfusion.
Professeur Chilolo et peut-être même vous, Constant Vaudouet, vous pourrez réagir à ce sujet. Tout à l'heure, on parlait de la stigmatisation du contexte culturel en matière de sang. Est-ce qu'en République démocratique du Congo, une saignée, une transfusion, c'est quelque chose qui est admis dans la communauté ou c'est quelque chose qui est un petit peu compliqué, surtout quand on parle de santé pédiatrique, surtout quand on parle d'enfants ?
Disons que donner du sang, c'est quand même accepté par la majorité des parents. Et d'ailleurs, en ce qui concerne les malades, les enfants drépanocytaires, souvent c'est la maman qui donne son sang. Parce que ce sont des donneurs familiaux et compatibles. On n'a pas beaucoup de donneurs bénévoles comme Honor. Et le sang, il est accepté comme une priorité, parce que soit c'est l'enfant meurt, nous on a ces grosses priorités, c'est à cause de la malaria qui provoque des anémies aiguës, soit l'enfant meurt, soit on le sauve en lui donnant le sang. Mais pour rejoindre ce que disait Monsieur Galacteros, c'est que la situation s'est quand même améliorée parce que le Fonds mondial a financé quand même pas mal de programmes sur la sécurité transfusionnelle. Et le gros risque que nous avions, moi je me rappelle dans mon pays, on avait une prévalence de porteurs de l'hépatite B, de l'hépatite C, du VIH-Sida de l'ordre de 8 à 12%. Et maintenant ce pourcentage est tombé entre 3 et 5% au niveau de la banque de sang. Donc il y a une amélioration. Mais ça reste quand même encore des gros risques pour nous.
Constant Vaudoué, sur cette dimension du sang, même si on l'a compris, hein, c'est loin vraiment d'être aujourd'hui le recours numéro un quand on prend en charge la drépanocytose. Il y a des dimensions culturelles des fois qui peuvent un petit peu compliquer les choses.
Il y a des dimensions culturelles, religieuses. La représentation du sang dans un, si on prend l'exemple du Bénin, c'est pas seulement ciblé à un seul endroit, parce qu'il y a plusieurs ethnies, et dans chaque ethnie, il y a une représentation différente du sang. Donc c'est assez compliqué. Comme vient de dire le professeur Chilolo, il faut savoir que les gens acceptent le sang quand ils n'ont plus rien d'autre à faire.
Quand c'est le dernier
autrement
recours.
Ils sont réticents quand même.
Alors, il y a une dimension qu'on n'a pas encore abordée dans cet échange, c'est bien sûr celui de la recherche. On voit, hein, quand on lit la presse, y compris non spécialisée, qu'il y a des espoirs. Tout de suite, peut-être que les gens vont un peu vite en besogne. Mais en tout cas, il y a des grands espoirs qui sont bien là. On va essayer d'être simple. Il y a les espoirs en matière de thérapie génique et puis de greffe de moelle osseuse. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, professeur Galacteros, que ce sont les deux grandes pistes qui sont poursuivies ou il y a encore d'autres pistes qui sont prometteuses?
Il y en a forcément d'autres. Et en fait, tout progresse de façon, non pas peut-être parallèle, mais par étapes, bien entendu, mais tout progresse. À la fois l'approche médicamenteuse, les approches non médicamenteuses, les approches... Par exemple, je vais vous donner un tout petit exemple. Pendant très longtemps, j'ai professé qu'il ne fallait pas faire de sport aux drépanocytaires. C'est une profonde erreur. Simplement, il faut que l'exercice physique soit encadré médicalement et coaché, comme on dit maintenant, pour que ça soit bénéfique. Et ça l'est. Alors, sur le plan des drogues médicamenteuses, il y a des pistes nouvelles, il y a 4 ou 5 nouveaux médicaments qui sont, on fait soit une phase 3 terminée, c'est-à-dire une preuve d'efficacité, avec une dose donnée par patient, qui sont publiés, qui sont en cours d'enregistrement par les grandes agences du médicament mondial, dont la Food and Drug Administration américaine et l'EMA en Europe. Et donc ces agences d'enregistrement vont dire oui, ces médicaments ont un intérêt thérapeutique, oui, on peut les mettre sur le marché. Et bien entendu, ils vont être extrêmement chers.
Et il va y avoir une nouvelle bataille qui va commencer
bien,
à ce moment-là.
Voilà, très clair. En ce qui concerne la greffe de moelle, c'est pas nouveau du tout la greffe de moelle. On fait des transplantations médullaires pour les hémoglobinopathies, bêta-thalassémie et drépanocytose confondues, depuis 20 ans, 30 ans. Ce qui se dégage maintenant, c'est qu'on est arrivé à réduire chez l'enfant la gravité de la greffe, et donc le risque de mortalité lié à l'acte lui-même, en dessous de 2%. On prend quand même un risque de 1 à 2% de tuer l'enfant quand on fait une greffe.
C'est pas anodin, ça l'est jamais quand on fait partie du 2%.
Spontanément, il ne serait pas mort si on n'avait pas greffé.
C'est pas quand même pour des cas qui arrivent dans des situations ultimes où
Non, parce que si vous faites des greffes dans des situations ultimes, la mortalité va être bien supérieure.
L'enfant ne sera pas capable de le supporter.
C'est un choc considérable sur le plan physiologique. D'autre part, on est limité pour la greffe parce qu'il faut un donneur. Il faut un donneur, il faut un donneur volontaire, même si c'est un petit enfant, et qu'il soit de même groupe HLA que son frère ou sa sœur. Donc ça ne peut être que des enfants de même père et mère, compatibles. On en trouve seulement dans 30% des familles concernées. Donc ça fait 70% des familles qui n'ont pas accès à cette thérapeutique. Et ceux qui ont accès ne sont pas tous des candidats à le faire, compte tenu de ce que l'on sait. Donc voilà, ça va faire que, grosso modo, 10 à 15% des patients sont éligibles pour la greffe. La thérapie génique, c'est toute autre affaire, puisque c'est le propre malade qui est son propre donneur. On prend sa propre moelle qu'on va modifier sur le plan génétique, de telle sorte, de façon très ciblée, très spécifique, en introduisant un gène de l'hémoglobine bienfaisant, remplaçant le gène de l'hémoglobine malfaisant, qui est l'hémoglobine S. Eh bien, ce gène de l'hémoglobine bienfaisant, quand tout se passe bien, il aboutit à un résultat où effectivement l'enfant ne fera plus de crise drépanocytaire. Est-ce qu'il sera entièrement guéri? C'est une autre affaire, on manque totalement de recul pour ça. Il y a quelques poignées seulement de patients qui ont été traités, mais disons que l'espoir effectivement est là.
L'espoir, mais toujours avec la question clé de l'accès à ces innovations thérapeutiques. Et plus d'accès du côté à la limite des médicaments onéreux sur lesquels il faudra travailler justement pour essayer de militer pour une baisse des prix.
Bien entendu. Enfin, ceci dit, pour la thérapie génique, par exemple, les derniers chiffres qu'on a entendus, c'est de l'ordre de 600 000 euros pour un traitement. C'est sûrement plus, à vrai dire. Une transplantation médulaire, on peut espérer 150 000 euros à peu près. Si vous avez un traitement qui coûte 1 000 euros par mois, vous voyez qu'il va falloir quand même un certain nombre de mois et d'années pour matcher avec la thérapie. Donc la greffe, il y a des calculs comme ça qui vont être faits naturellement pour dire quelle est l'opportunité, la meilleure opportunité thérapeutique de l'avenir. Mais il faut bien savoir que ces calculs-là sont faillibles dans la mesure où ils sont donnés à un temps donné, à une date donnée. Or, les choses évoluent à toute vitesse. Et le calcul que vous avez fait hier, il va falloir le refaire demain parce que déjà les choses ont bien changé. Donc, et c'est pour ça qu'il ne faut pas perdre doublement l'espoir, parce que non seulement ces thérapeutiques s'approchent de l'efficacité et de l'effectivité, mais en plus leurs prix vont s'effondrer probablement. Enfin, s'effondrer tout à fait. Toute chose étant relative par ailleurs, mais suffisamment pour l'espérance de vie longue des drépanocytaires d'être coût efficace, on va dire.
Alors, je voudrais qu'on termine cette émission par une question qu'on n'a pas directement traitée. On en a parlé en abordant le volet culturel du contexte, mais c'est l'impact psychologique qu'a la maladie d'abord sur la famille, bien sûr, quand le bébé est là, et puis sur le jeune qui va grandir avec cette maladie qui va vraiment lui coller à la peau tout au long de son existence. Est-ce que le suivi psychologique, ça fait partie du traitement? Je vais me tourner vers vous, professeur Léon Tchilolo. On sait qu'en matière de santé mentale, il y a beaucoup de lacunes. Hein. C'est un euphémisme en Afrique subsaharienne. Comment on fait justement quand une famille a un ou plusieurs enfants drépanocytaires pour quand on est fatigué, quand on en a marre des traitements, quand on en a marre tout simplement aussi d'avoir mal, comment on prend en charge ces personnes?
Eh bien, justement, là, c'est un des gros problèmes, spécialement pour les jeunes adolescents. Nous, on le voit même avec ceux qui prennent l'hydroxyurée. Ils sont bien portants, mais ils en ont marre de prendre des médicaments chaque jour. Et c'est un enjeu important. Il faudrait recourir, justement, aux psychologues et à toute la société, aux acteurs de la santé, pour accompagner à la fois le malade et la famille, pour comprendre que c'est une maladie chronique. Et en Afrique, il n'y a pas malheureusement suffisamment d'équipes qui soient outillées pour accompagner la famille et les malades dans la prise en charge des maladies chroniques. C'est la même chose pour le diabète ou d'autres maladies, parce que malheureusement, nous n'avons pas suffisamment d'expertise de personnel bien outillé pour accompagner cette catégorie de patients et de familles.
Docteur Gilles Naloco, tout à l'heure vous mettiez en avant, on va dire quand même, l'excellence au niveau du dépistage. Est-ce qu'au niveau de la prise en charge psychologique, vous proposez également un dispositif directement associé au traitement?
Je pense qu'en Martinique, nous avons beaucoup de chance. Le label centre de référence a permis d'avoir une psychologue et aussi une assistante sociale spécifique pour les patients drépanocytaires. Et je dirais aussi qu'il y a, à côté de cela, il y a tout ce que les associations peuvent faire, qui du point de vue psychologique ou socio-psychologique est important, avec des groupes de discussion, la disponibilité des pères et des patients qui vivent la même chose ou des parents de patients.
Justement, je me tourne vers vous, Constant Vaudouet. L'associatif peut être un recours en milieu communautaire, ces associations qui sont au plus près des populations. Comment vous, vous agissez pour ce volet psychologique, psychosocial d'accompagnement et d'aide?
Beaucoup de patients appellent, surtout des pays d'Afrique, pour avoir des renseignements. Et ceux qui sont ici, on peut les diriger vers des structures qui peuvent les prendre en charge. Par contre, il faut voir que la psychologie en Afrique, et ici, c'est pas pareil, parce que le psychologue en Afrique, ça peut être la meilleure copine, ça peut être la tante, ça peut être... Donc, les gens parlent beaucoup. On n'a pas assez directement un psychologue dans les pays, dans nos pays. Donc, voilà, c'est un peu le contexte. Ici, oui, des enfants qui sont nés ici ont facilement accès et comprennent mieux d'aller voir un psychologue qu'un Africain qui vit en Afrique.
Professeur Frédéric Galactéro, ce sera ma dernière question. Qu'est-ce que vous apprennent vos patients?
Et alors là, c'est incroyable même. Et ça fait quand même pas loin de 45 ans que j'ai vu mon premier patient. J'ai encore vu dernièrement, c'est une dame de, qui a maintenant 73 ans. Eh bien, la question de ce que peuvent nous apprendre les patients est très simple, c'est a-t-on le temps de les écouter? Prenons-nous le temps de les écouter? Eh bien, ceux qui me connaissent bien savent que je n'ai jamais terminé une consultation à l'heure.
C'est un gage de qualité humaine.
Je ne sais pas, mais en tout cas, quand j'entends quelque chose qui m'intéresse, entre guillemets, que je vais traduire en termes interprétation scientifique ou autre, parce qu'évidemment, c'est mon rôle de dire, ah oui, vous avez ceci, cela, mais comment ça fonctionne? J'interprète et je retranscris. Et un certain nombre de choses qui ont été introduites, qui sont essentielles pour la vie des drépanocytaires, viennent des patients eux-mêmes, de leur capacité d'observation. Un patient dernièrement est venu me voir spécialement en disant « Monsieur Galactéros, ça fait 40 ans, quelque chose comme ça, que vous me suivez, je ne vais pas pouvoir me passer de vous parce que j'annonçais ma retraite. » Et donc, je lui disais « Mais pourquoi ?» J'ai formé plein de gens. Il me disait « Mais c'est très simple, c'est que vous nous écoutez. Et vous m'avez toujours écouté. Et ça m'a permis de traverser toutes ces années. Sinon, je n'aurais pas pu. Et puis, vous avez dit... À propos de quand j'étais jeune, vous avez dit, vous serez une bonne affaire pour un patron. Et moi, je pensais que je ne pourrais jamais travailler de ma vie. Et maintenant, j'ai travaillé, je suis pas loin de la retraite, moi aussi. C'est ça que l'intermédiation des scientifiques et des médecins, c'est qu'il faut être entre les deux, cet intervalle de confiance, que je dirais, entre ces personnes. Parce que moi, je me suis jamais considéré comme autre chose qu'une personne comme une autre, comme la personne qui est en face de moi. Mais simplement, j'essaye d'interpréter ce qu'ils me disent, en termes scientifiques et bénéfiques pour le plus grand nombre. J'ai compris des choses essentielles pour certaines complications comme ça, et je les ai retranscrites.
Merci beaucoup, hein. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Priorité Santé, d'avoir éclairé les auditeurs, les auditrices sur la drépanocytose. Professeur Frédéric Galactéros, responsable de l'unité fonctionnelle maladie génétique du globule rouge à l'hôpital Henri Mondor de Créteil. À vous, docteur Gilles Naloco, responsable du centre de référence de Martinique et présidente de l'association ASAD 972. Professeur Chilolo, directeur du centre de formation et de recherche du centre hospitalier mère-enfant Moncolet de Kinshasa. Et à vous, Constant Vaudouet, président de l'association de lutte contre la drépanocytose Doris, qui organise ce congrès ici à Strasbourg. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. Assez Toussamaké, Baptiste Madinier, Victor Hull. Demain, on va se retrouver en direct de nos studios à Issy-les-Moulineaux. Nous parlerons des soins et des problèmes qui concernent les cheveux, cheveux crépus en particulier. On attend vos messages sur notre page Facebook et vos questions bien sûr à notre numéro 33 1 84 22 75 75. À demain.
C'était Priorité Santé avec Sunou Assurance. Comme nos clients dans plus de 14 pays, profitez d'une assurance santé toute option où que vous soyez. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Sunou Assurance, notre métier, l'assurance.